et orienté vers la recherche action. Alors je veux commencer par des remerciements. Peut-être si le public est d'accord, moi j'aurais préféré qu'on éteigne les... Oui. Ah oui, oui, ceux qui veulent prendre des notes, c'est vrai. On peut ? Ah, c'est... Non, c'est soit complètement éteint, soit... Donc je commence par des remerciements. Je remercie les organisateurs de ce colloque d'avoir accepté ma communication parce que vraiment c'est un programme que nous avons conçu entre trois universités. Depuis cette année, il fonctionne comme un master international. Et je pense que ce que j'ai appris ici avec les différentes interventions nous permettra de repenser notre conception et d'introduire beaucoup plus la notion de langue-culture dans les différents cours qui composent ce programme. Donc je remercie l'Agence universitaire de la francophonie dont le bureau régional a subventionné ma participation à ce colloque. Alors je commence par quelques photos pour faire un lien entre Sofia et Tallinn. C'est la première fois que je viens dans un pays balte et je suis très content que ce soit Tallinn. Donc on voit en haut la cathédrale de Sofia qui s'appelle Alexandre Nevski, comme une cathédrale ici à Tallinn. Il faut préciser que la cathédrale de Sofia ne dépend pas du patriarcat de Moscou, mais du patriarcat bulgare. Donc c'est une autre église. Et donc la symbolique d'Alexandre Nevski à Sofia est différente. Nous voyons aussi sur la même place de l'Assemblée nationale le bâtiment de l'université de Sofia. Voilà, ça c'est notre bâtiment en plein centre-ville et on peut le voir de plus près. Donc tout de suite on remarque que ce sont des caractères cyrilliques et beaucoup de gens me demandent mais pourquoi est-ce que c'est en russe ? Non, ce n'est pas en russe, c'est en bulgare, parce que le bulgare est une langue qui utilise le même alphabet et qu'il a utilisé un siècle avant les Russes, parce que les caractères cyrilliques dans les pays slaves arrivent avec la christianisation. Il se trouve que la Bulgarie s'est christianisée un siècle avant la Russie, donc c'est une inscription qui est en bulgare, et c'est le nom de l'université. À l'intérieur de ce bâtiment se trouve un centre moderne qui est co-géré par l'université de Sofia, l'ambassade de France à Sofia, l'institut français, et l'agence universitaire de la francophonie. Donc c'est une gestion à trois. Et c'est dans ce centre que se trouve le siège de notre master, l'un des sièges, parce qu'il y en a trois. Donc chez nous, à Sofia, puis il y a l'université de Bucarest et l'université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Nous avons un site internet, donc ceux qui s'intéressent aux détails du programme peuvent le consulter. Moi, j'ai repris ici quelques éléments de la brochure qui a été éditée pour présenter le master. Voilà, il faut dire tout d'abord que c'est une approche des francophonies que nous considérons comme originales, parce que nous voulons démontrer la diversité aussi bien au niveau linguistique qu'au niveau culturel. Et pour nous, les francophonies sont un objet d'étude spécifique. Le programme de master se propose de permettre aux étudiants d'acquérir une formation approfondie en linguistique et en littérature, mais aussi de les doter d'instruments d'analyse des contextes culturels et historiques dans les différents pays qui constituent l'espace francophone, d'analyser et d'évaluer le rôle international des institutions francophones aussi comme un troisième objectif. Donc, j'ai déjà mentionné le fait que c'est un master international. Donc, on voit en haut les trois universités qui en font partie, Louvain-la-Neuve, Bucarest et Sofia, avec une brève présentation des trois universités que vous pouvez trouver aussi sur le site internet. Donc, nous avions comme objectif d'élaborer un programme qui soit cohérent et qui mette en réseau les compétences des enseignants des trois universités. Donc, il propose une formation qui recourt aussi aux nouvelles technologies de l'information, parce qu'il prévoit aussi que certains cours se tiennent sous forme de visioconférence. Le programme est modulaire et il vise aussi à développer des compétences professionnelles. Par exemple, l'un des modules, nous avons plusieurs blocs matières. J'utilise la terminologie de nos collègues belges. Le premier, espace francophone avec 30 crédits. Le deuxième, problématique francophone avec 30 crédits aussi, qui permet d'approfondir certaines matières d'après le choix des étudiants du premier bloc matière. Et après, dans les options, nous avons les options d'ouverture dans lesquelles nous avons introduit aussi par exemple, la méthodologie du projet européen, avec un croisement de la problématique de l'Europe et de la francophonie. Donc, voilà, je vais essayer de présenter comment ce programme permet de traiter la problématique de la mondialisation et de la sauvegarde des diversités à travers ces trois axes. Donc, d'une part, la diversité linguistique, autour de la géolinguistique de la francophonie, de la description sociolinguistique des situations dans les différents pays et les politiques pour la langue, pour les langues aussi. Deuxièmement, la diversité culturelle autour des littératures francophones, mais aussi des phénomènes artistiques et médiatiques dans les pays francophones et la méthodologie du projet, avec l'idée de faire croiser plusieurs dimensions de cette problématique, la dimension universelle avec la dimension francophone et européenne, et aussi, comme deux des universités se trouvent dans la région des Balkans, sur la péninsule balkanique en tout cas, parce que de plus en plus, quand on dit les Balkans, on pense à la partie occidentale de la péninsule. Nous, au contraire, nous représentons la partie orientale, la Roumanie et la Bulgarie. Donc, une dimension balkanique aussi, avec une sorte de loupe sur les pays francophones du sud-est européen. Donc, d'une part, on essaie de présenter la diversité linguistique et culturelle à travers les politiques européennes qui reconnaissent l'égalité de statut de toutes les langues officielles des pays de l'Union européenne. Et on peut voir ici la liste des pays prise sur le site de l'Union européenne. Et bien sûr, on voit ici l'estonien, la langue de notre pays hôte, et le bulgare avec l'alphabet cyrillique. Donc c'est avec l'adhésion de la Bulgarie qu'un troisième alphabet s'est rajouté, parce qu'avant il y avait juste l'alphabet latin et l'alphabet grec. Donc maintenant, nous avons un troisième alphabet européen. Donc, d'autre part, une politique qui prévoit des mesures de promotion et de protection des langues et des cultures régionales et minoritaires. Je signale ici l'existence de projets comme Euromosaïque, qui a présenté les langues reconnues comme régionales ou minoritaires dans les différents pays de l'Union européenne. Et donc tout ça, nous essayons de le croiser avec une dimension francophone. C'est la carte mise à jour de l'appartenance des pays à la francophonie sur le continent européen. Donc nous voyons que, à part les pays qui sont où le français est langue maternelle, ou une des comme une des langues officielles en Belgique et en Suisse et au Luxembourg. Il y a un groupe de pays qui sont ici en orange et qui constituent justement un autre pôle de la francophonie européenne et qui est situé dans cette partie orientale de la péninsule balkanique, avec un nombre important maintenant des pays qui sont ici en bleu et qui ont choisi le statut d'observateur dans l'Organisation internationale de la francophonie. Donc l'idée de notre master, c'est de voir aussi comment les problématiques, les visions européennes et francophones se croisent dans cette partie de l'Europe. Donc, dans la deuxième partie de mon intervention, j'aimerais attirer votre attention sur quelques notions de sociolinguistique que moi j'ai trouvées importantes pour introduire cette dimension traite de la diversité linguistique et culturelle en rapport avec la mondialisation et le respect des identités. Donc c'est une partie des contenus de ce programme que je connais de plus près parce que j'interviens dans les cours de sociolinguistique ensemble avec Michel Francard de l'Université catholique de Louvain. Donc un ouvrage récent de Dominique Bolton, Demain la francophonie, où plusieurs éléments m'ont semblé intéressants et que nous avons essayé d'articuler avec les contenus des cours du master. D'une part, l'histoire de la francophonie, oui, elle est intéressante, mais il faut la traiter avant et depuis son institutionnalisation. Donc, il parle de trois événements, trois tendances en France. Une chute de l'intérêt pour les Outre-mer dans les années 60, qui coïncide avec un investissement pour l'Union européenne. Donc, de nouveau, les dimensions européennes et francophones se croisent ici. Et puis, en même temps, il y a le combat de la diversité culturelle. D'autre part, dans la francophonie, quand on parle d'institutionnalisation, il y a une étape nouvelle à partir de 2000, lorsque la francophonie institutionnelle s'oriente vers une diplomatie préventive. Et c'est à ce moment-là que l'adhésion de pays qui ne sont pas francophones de par leur racine historique adhère à l'organisation et en parle de plus en plus de francophonie d'appel. La Bulgarie et la Roumanie en font partie d'ailleurs. Pour Walton, il y a trois cercles de l'identité de la francophonie et nous essayons de traiter tous les trois. Donc il y a les institutions dont le poids est grandissant, mais il y a, et les deux autres cercles sont plus importants pour la survie et l'épanouissement de la francophonie. D'après l'auteur de cet ouvrage, c'est la société civile et le militantisme. Parce que le terreau militant, pour lui, constitue ce réseau qui permet à la francophonie de vivre et de se développer dans les différentes parties du monde. Le problème de l'institution, c'est que pour le moment, elle est sans élection et sans sanction des citoyens des différents pays. Sa tâche est très difficile parce qu'elle doit gérer des logiques différentes. Et justement, nous essayons de démontrer à travers les différentes disciplines dans le master ces logiques et la différence entre pays francophones du Nord et pays francophones du Sud, pays de l'Est et pays de l'Ouest. Et avec les équilibres à maintenir qui sont souvent difficiles à réaliser. Justement, à travers ces logiques, on voit des tensions dans différentes zones, par exemple dans le Pacifique, entre les collectivités d'outre-mer, qui sont des territoires de la République française, et un pays comme le Vanuatu, qui est indépendant, mais aussi entre Mahorais, Malgaches d'une part, et les Réunionnais du département d'outre-mer de La Réunion. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la position de Walton, c'est que il dit que la reconnaissance de la diversité culturelle ne suffit pas et que ce sont les aires linguistiques qui sont aussi des aires culturelles pour lui qui doivent jouer un rôle beaucoup plus important parce que les aires linguistiques sont un tiers lieu entre la communauté internationale qui au niveau de la francophonie et l'organisation internationale et les États-nations. Le schéma, le modèle gravitationnel de Louis-Jean Calvet a été mentionné hier par M. Jacques Cortès dans l'ouvrage Le marché aux langues. On n'avait pas de représentation visuelle, mais là, dans l'un des derniers numéros du Français dans le monde, Louis-Jean Calvet a osé proposer une vision de ce modèle gravitationnel. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que les langues qui sont ici en vert, qui sont considérées comme des super langues autour de l'hyperlangue, l'anglais, sont des noyaux d'air linguistique et culturel. Donc on voit que nous avons le français, l'espagnol, le portugais aussi dans ces aires linguistiques. Quel rôle doivent-elles jouer justement pour éviter la montée des identités refuges? Il faut accentuer une identité culturelle qui est relationnelle et qui est orientée vers la solidarité. Le communautarisme, c'est l'isolement, mais la diversité culturelle devrait être orientée vers la solidarité. Et d'après l'auteur de cet ouvrage, la francophonie qui n'a pas, qui de toute façon est obligée de gérer sa propre diversité culturelle, et notre master démontre cette diversité interne à la francophonie, peut servir de laboratoire pour les autres aires linguistiques, qui, eux, n'ont pas souvent une telle diversification des contextes. La mondialisation pour lui, et j'ai entendu M. Pirenne dire hier que c'est une chance pour la francophonie, c'est le point de vue de cet auteur aussi, parce qu'elle oblige la francophonie à l'ouverture et à devenir un espace de vie, à ne pas s'enfermer. En ce qui concerne la langue, Walton a une vision originale. Il dit qu'il y a trois cercles de la langue française et que pour tous les trois, il faut développer une politique de promotion. Pas seulement pour la langue académique, le français classique, qui est surtout promu, mais aussi promouvoir de plus en plus les langues de francophonie sur le modèle de langue de France. Et un troisième cercle, appelé « Novlangue » par inspiration dans l'ouvrage de George Orwell, 1984. Donc, les langues de France, ce sont les langues régionales et minoritaires, et l'idée, c'est d'élargir cette vision à toutes les langues qui sont déjà dans les Outre-mer de la République française, mais aussi dans les pays membres de la francophonie. Et d'ailleurs, les réseaux de chercheurs de l'Agence universitaire de la francophonie travaillent depuis une dizaine d'années autant sur le français et sa diversité dans les différents pays francophones que sur les langues nationales, les langues des pays membres. Donc c'est un hommage à la diversité qu'il ne faut pas considérer comme une menace à l'article 2 de la Constitution française, s'intéresser de plus en plus aux trois cercles de la langue française. Et voilà ce que dit cet auteur sur le troisième cercle. Enfin, ce n'est pas une vraie langue, ce n'est pas une langue à part entière, mais des pépites de diversité linguistique qui peuvent parfois assurer une présence au niveau du paysage linguistique surtout, mais aussi au niveau de la conversation de tous les jours dans les différents pays du monde. Alors, ce qui nous a semblé intéressant aussi, c'est de présenter la colonisation dans son unité, qui est souvent apparente, mais aussi dans la diversité des cadres politiques et culturels, pour comprendre les différents contextes de la francophonie, et de comparer aussi les modèles de colonisation et décolonisation dans les différentes parties du monde. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Voilà, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite vers la fin. Voilà, j'ai dit que la francophonie, la réalité l'oblige à développer une solidarité pour respecter les différentes logiques des zones géographiques de la francophonie. Et puis quelques mots sur justement cette conception essentialiste de la langue qui a imposé aussi une vision d'une seule francophonie. Alors que la langue française est plurielle et on a intérêt à développer, à promouvoir tous les aspects dans confirmation dans un ouvrage de Jean-Marie Klinkenberg. Ne pas avoir peur de pluraliser la langue, ne pas considérer que ça veut dire l'affaiblir. Et donc une citation de Didier de Robillard, un article qui a été publié dans Tu parles, le français dans tous les sens, et qui parle justement de la nécessité de cet exercice de jonglerie qui permet de combiner le respect de la variation avec un modèle fédérateur. Et donc ce modèle fédérateur doit concerner les cinq catégories de francophones, d'après Klinkenberg, les Français, mais aussi les minorités de langue maternelle française, les Africains francophones, les arabophones et les étrangers bilingues, des gens comme moi, dans les pays de la francophonie d'appel. Dans une essence, la réalité des normes, dans un équilibre qui, sans porter atteinte à l'unité de l'ère linguistique et culturelle francophone, respecte les identités spécifiques, souvent fragiles. Et une des stratégies qui sont proposées dans « Demain la francophonie », c'est de créer un sentiment de sympathie à l'égard de tout cet ensemble vivant que constitue la francophonie, et pas seulement de la France. Et pour terminer, dans quelle mesure est-ce que ce sentiment de sympathie, comme dit Walton, à l'égard de toutes les zones de la francophonie, avec les différentes logiques que nous avons vues, et entre lesquelles on essaye de développer des liens de solidarité, dans quelle mesure est-ce que c'est dans les réalités? Pour terminer, je vous donne un exemple de deux... c'est du matériel de promotion qui a été élaboré par les élèves en Bulgarie. Des élèves qui apprennent le français. Et donc on leur avait demandé de proposer un support bilingue pour attirer l'intérêt des élèves vers le français. Et bien sûr, nous nous attendions à du visuel qui renvoie à l'ensemble de la francophonie et la langue française sur les cinq continents. Mais ce que nous avons reçu après, en fait, tout était centré sur une image de la France. Donc la fille que nous voyons ici, elle se trouve sur une place centrale à Sofia, mais sur ses lunettes, nous avons le drapeau français et la tour Eiffel qui apparaît comme un reflet dans ses lunettes. Et puis l'autre matériel, c'est une carte postale qui est toujours organisée autour de la Tour Eiffel et de Paris. Donc je pense que pour justement traduire cette nouvelle vision plurielle de la francophonie, nous avons encore beaucoup de travail à faire, aussi bien au niveau des programmes scolaires, parce que ce sont des élèves de lycée. Donc là, l'image qui a été véhiculée par leur manuel, par la manière dont les enseignants ont... par l'approche des enseignants à la langue française, a donné ces représentations-là. Donc Walton dit que, et ça va dans le sens d'une nouvelle vision, quelle stratégie aller vers un management francophone dans l'économie des services, dans le tourisme, et sortir du patrimoine des industries de luxe, valoriser la consommation, les styles de vie, des choses qui peuvent attirer beaucoup plus les jeunes vers l'apprentissage de la langue française, de la langue culture française, ou des langues culture françaises, si on adopte une vision plurielle de la francophonie.
Quels sont les débouchés de ces étudiants? S'ils vont être chercheurs, ils vont faire une thèse et doctorat après?
Voilà, merci. D'une part, mais d'autre part, nous avons envisagé aussi d'autres débouchés que vous pouvez trouver sur le site internet du master et que je peux vous montrer tout de suite. Donc, à qui s'adresse ce master? L'inscription doit se faire auprès d'une des trois universités, mais en même temps, le master est ouvert à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est un réseau international d'études des francophones qui assure la gestion de ce master international. Et le réseau est ouvert à d'autres universités qui pourraient proposer des programmes allant dans le même sens.
Okay. Stefano, et ensuite Stefano.
Oui, c'est une question intéressante, parce qu'on est dans un colloque où on s'occupe de langue et culture, effectivement, et je suis anthropologue, je voudrais renverser les choses et dire, est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce master une discipline comme l'anthropologie culturelle? Parce que, par exemple, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le schéma gravitationnel de Calvet, par exemple, parce que l'anglais est au centre, mais par exemple, Amsel, qui est un anthropologue français, francophone, dit que pas forcément parce que les langues sont au centre, qu'il y a un centre linguistique de la culture. Par exemple, les Indiens en Inde parlent anglais, mais il y a un retour des traditions indiennes de l'Inde vers l'Angleterre, même s'ils ont l'anglais. Ou sinon, un autre exemple, le coca, par exemple, qui est aux États-Unis, qui n'a pas un symbole, c'est-à-dire qu'on boit, c'est une boisson, et lui, Amsel, dit, selon les logiques métisses ou métissées, en Afrique devient un rite d'initiation, c'est-à-dire il y a des ethnies qui l'utilisent comme rite de passage. Alors, il y a cette question, selon moi, intéressante, qu'il faudrait découper, ou sinon voir quelle définition donne de langue, quelle définition donne des cultures, pour voir s'il y a de retour de la culture vers la langue. Et dans ce cas-là, par exemple, il serait tout à fait justifié de mettre une discipline comme théorie de la culture ou anthropologie culturelle dans un programme de master comme celui-là, pour réfléchir oui. sur la langue à partir de la culture et des définitions qui donnent les anthropologues qui se bagarrent sur cette définition.
Je suis tout à fait d'accord. C'est faute de spécialistes francophones, parce que tous les cours sont donnés en français, mais c'est tout à fait envisageable. Et d'ailleurs, une de nos collaboratrices françaises, Cécile Canu, qui est sociolinguiste et en même temps travaille avec des anthropologues, a essayé d'introduire une telle problématique quand elle vient donner des cours chez nous. Voilà, très bien.
Est-ce qu'il y a des interventions de représentants de la francophonie, par exemple, écrivains?
Oui, très auteurs. Souvent. Et ils sont toujours. Ils passent par le centre francophone à l'université de Sofia quand ils viennent en Bulgarie.
Voilà. Merci beaucoup.